Nous arrivons donc à Matthieu 5, verset 38. En fait, je dois vous avouer que j'ai fait une erreur en Belgique cette semaine. J'enseignais à Bruxelles cette semaine et j'ai commencé entre cours à préparer mon sermon. Et je me suis rendu compte en rentrant que j'ai sauté la partie qu'on devait aborder aujourd'hui. Normalement, on devait aborder les versets. Donc, 33, oui, 33 à 37, au sujet des serments. Et je n'ai pas vu que j'ai sauté, mais nos erreurs sont dans le plan de Dieu aussi. Je reviendrai la prochaine fois à la partie que j'ai sautée, mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le principe de non-résistance dont Jésus parle. Et cette partie du sermon sur la montagne a époustouflé les gens pendant toute l'histoire. On ne trouve pas son pareil dans l'éthique de quelconque autre religion. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 mille, c'est-à-dire 1 000 pas, fais-en 2 avec lui, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Nous nous rappelons que lorsque le Seigneur est venu, il y a 2000 ans, il apporte l'avenir. Il apporte le royaume à venir parce que l'histoire va quelque part. L'humanité telle qu'elle est n'est pas ce que Dieu a voulu. Et tout le monde le sait. Parce que tout le monde se plaint de ce qui se passe dans l'humanité. Or, s'il n'y avait pas une norme autre que ce que nous faisons, personne ne se plaindrait. Mais dans le cœur et dans la conscience de tous, on sait tous que ce n'est pas comme ceci que ça devait être. Donc nous savons qu'il y a autre chose qui devait être, et nous savons par la parole que Dieu va venir apporter un nouveau monde. Quand il est venu, il l'a déjà apporté en partie, en lui-même. Il vivait ce monde, cette éthique, cette vie du ciel, cette vie en relation avec le Père. Et il l'a enseigné. Et il a notamment corrigé l'enseignement des pharisiens qui tordaient les Écritures, tordaient la loi de Dieu, en fait rétrécissaient les exigences de Dieu, la loi de Dieu, pour que ça corresponde à la petitesse de leur cœur. Et c'est notre tendance à nous tous. Lorsque nous voyons ces exigences, nous avons envie de dire tout de suite, non, c'est impossible. C'est ridicule, on ne peut pas accepter ça, Dieu ne peut pas nous dire cela, parce que le cœur de l'amour de Dieu est tellement plus grand que nous, que nos cœurs si peu aimants, que nous nous trouvons en controverse avec lui simplement à entendre ses paroles, n'est-ce pas? Mais nous découvrons en suivant le Seigneur que, au fur et à mesure qu'il nous amène vers la vie qu'il veut, nous trouvons que c'est une vie de joie, c'est une vie incroyable que de pouvoir aimer autant que cela, ou en fait arriver de plus en plus, par sa grâce et par son œuvre en nous. On ne peut pas tout seul. Mais donc nous allons essayer de comprendre ces paroles du Seigneur. Nous devons de les comprendre. C'est le Seigneur qui parle. Nous avons chanté par le Seigneur. Il a parlé. Il nous a parlé. Cette parole est pour chacun d'entre nous parce que nous avons des occasions de vivre ce principe de non-résistance souvent dans notre vie, n'est-ce pas? Ok, bien. Premier point, c'est quelle était la vraie signification de la loi du talion? La loi du talion, nous le voyons au début du passage, lisez avec moi le verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit, citation, œil pour œil et dent pour dent. Alors, ce bout de phrase est tiré de l'Ancien Testament, de la loi civile de Dieu. Œil pour œil et dent pour dent, c'est ce qu'on appelle la loi du talion. Alors, quelle était sa vraie signification? La première chose que vous devez savoir, que c'est pas un principe pour nos relations personnelles de tous les jours. Cette loi est une loi pour les tribunaux, pour la manière dont on applique la justice dans les procès. Donc, je vais vous le montrer, et on va lire, on va prendre le temps de lire trois passages où nous trouvons œil pour œil et dent pour dent, et vous allez voir que le contexte nous place là dans la loi pénale. Exode chapitre 21 à partir du verset 22. Donc deuxième livre de la Bible, Exode 21, et donc à partir du verset 22. Qui dit? Pardon, je le mets sur la bonne page. Lorsque des hommes se querelleront, heurteront une femme enceinte et le feront accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme. On la payera sur l'avis d'arbitre. Vous voyez, c'est la loi civile, la loi pénale. Donc, il y a un arbitre, etc. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Lorsqu'un homme frappera l'œil de son esclave, homme ou femme, et lui fera perdre l'œil, il le renverra libre pour prix de son œil. Donc, ici, ce n'est pas littéralement l'œil qui doit perdre, parce qu'il a fait perdre l'œil à son esclave, mais il doit lui donner une récompense qui correspond à la perte de son œil. S'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le renverra libre pour prix de sa dent. D'accord? Donc ici au moins, œil pour œil est figurative, mais fixe qu'il doit lui donner vraiment une compensation qui est à la taille du mal qu'il lui a fait. Deuxième passage se trouve deux livres plus loin dans le livre de Deutéronome, trois livres plus loin, pardon, Deutéronome chapitre 19 et verset 15 et suivant. Nous lisons au verset 15. Et vous allez voir qu'il s'agit de la loi pénale encore. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute. Ce n'est pas les rapports personnels de tous les jours, c'est le crime. Un forfait, un péché quelconque qu'on peut commettre, enfin, ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Lorsqu'un témoin à charge se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation se tiendront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges en fonction ces jours-là. Les juges feront une enquête sérieuse. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez, s'il a fait une fausse déposition, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Les autres apprendront et auront de la crainte, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Ton œil sera sans pitié, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Donc, s'il a voulu que l'autre passe 3 ans en prison, c'est lui qui passera les 3 ans en prison pour avoir fait une chose aussi mauvaise que cela. Ensuite, Lévitique, si vous revenez en arrière, donc deux livres, Lévitique 24 Lévitique 24, 18, nous lisons ceci. Celui qui, au verset 18 du chapitre 24, donc celui qui frappera mortellement un animal le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un inflige une mutilation à son compatriote, il lui sera fait comme il a fait, maintenant c'est littéral, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera infligé la même mutilation qu'il a infligée à l'autre homme. Celui qui frappera mortellement un animal le remplacera, mais celui qui frappera mortellement un homme sera puni de mort. Vous aurez le même droit, l'immigrant ou l'autochtone, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous avez bien compris que dans cette loi, sous l'alliance mosaïque, qui avait pour but de montrer à quel point Dieu est saint, et que si il n'y avait pas de pitié, on est vraiment dans une situation désastreuse parce que Dieu est saint, saint, saint et il ne permet pas le péché. Donc ça, c'est le but de ce système mosaïque qui est parti maintenant, ok? Et donc qui n'était pas la représentation totale de la volonté de Dieu, mais qui voulait appuyer sur un aspect, ok? Comme nous sommes vite à nous justifier, à vouloir ne pas voir les exigences de Dieu. Dieu nous a donné un temps de loi pour que les hommes apprennent cela. Et selon ce principe, la loi du talion dit « Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres te retomberont sur ta tête. » C'est ça le principe, ce principe de justice. Et donc le criminel, dans l'Ancien Testament, il doit faire deux choses. Par exemple, s'il vole un bœuf, il doit faire deux choses. Normalement, dans ce cas, il doit rendre deux bœufs. Il rend le premier bœuf pour remettre la victime à la place originale avant son mal. Il retrouve sa place avant le tort subi. Et il doit lui donner un deuxième bœuf pour que lui-même, le criminel, se mette dans la position où il avait mis l'autre, c'est-à-dire ayant perdu un bœuf. Vous comprenez? Donc, tes œuvres retomberont sur ta tête. Les dommages sont inversés et retournent, la direction de l'endommagement est inversée et c'est le criminel maintenant qui doit subir ce qu'il a infligé à l'autre. Alors, cette loi avait plusieurs buts. Un des buts, œil pour œil, dent pour dent, c'était d'établir des peines spécifiques. Des peines qui allaient être d'une part une limite au-delà de laquelle tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas prendre la vie de quelqu'un parce qu'il t'a enlevé le dent. Ou l'œil ou la dent, pardon. Donc, aussi, c'est pour la raison contraire, c'est-à-dire que la peine doit arriver à un seuil. Tu ne peux pas avoir pitié dans une question de loi pénale. Tu ne peux pas dire non, c'est pas grave. Voilà, cette pauvre personne a perdu une main à cause de toi, mais donc paye une amende de 200 euros et tu t'en vas. Non, c'était pour établir une vraie justice, même si nous, on n'aime pas la justice. On n'aime pas qu'il nous soit fait comme nous avons fait à l'autre. Mais ça, c'est la justice. Ça, c'est la justice. Aussi, c'était pour créer la crainte. Imaginez dans une société où on a véritablement la loi du talion, les autres, dit Deutéronome, que j'ai lu tout à l'heure, les autres entendront et craindront et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. C'était un des buts de cette loi. Ok, maintenant nous comprenons la loi du talion. Deuxièmement, les pharisiens, comment avaient-ils perverti cette loi pour se donner licence au péché? Nous lisons dans le passage que Jésus corrige donc l'enseignement des pharisiens. Et vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis, correction. Qu'est-ce qu'il est en train de corriger? Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, ainsi de suite. Les pharisiens avaient mis de côté certains enseignements qui étaient aussi bien là dans l'Ancien Testament, aussi bien que la loi du talion. Par exemple, je vous donne quelques exemples. Je cite des versets de l'Ancien Testament, de Lévitique, qu'on a lu tout à l'heure. « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Deuxième passage. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. À ne pas amener tout le monde en justice chaque fois que tu marches sur mon pied. Troisième passage. Ne dis pas, je ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Quoi? Mais c'est exactement le principe de la loi du talion. Mais l'Ancien Testament, la loi, dit dans tes rapports personnels, tu ne diras pas je ferai comme il m'a fait. Non, c'est à la loi de faire au criminel comme il a fait. Ce n'est pas à nous de vouloir la vengeance, de vouloir le mal de l'autre. Parfois, il doit subir le mal à cause de son mal. Il faut que le crime soit puni. Mais ce n'est ni dans notre cœur, ni dans nos actes que ça doit se passer. Et le problème, c'est que les pharisiens avaient appliqué la loi du talion au rapport personnel. Et ils en avaient fait un prétexte pour pouvoir revendiquer leurs droits à chaque moment où quelqu'un leur faisait un tort quelconque. De revendiquer œil pour œil ou dent pour dent et de ne pas écouter que notre gloire est dans le fait de pardonner les offenses. De regarder au-dessus. Donc, en d'autres termes, ils ont employé la loi du talion, une loi de justice, pour effacer la loi de l'amour, qui est aussi présente dans l'Ancien Testament. Et Jésus, donc, corrige cela et montre, il veut nous montrer le vrai sens de ses exigences. Maintenant, nous arrivons au point 3 et donc le vif du sujet. Qu'est-ce que Jésus, je vais aborder ça en deux temps. Qu'est-ce que Jésus ne veut pas dire quand il dit tant l'autre joue et toutes ces autres prescriptions? Et ensuite, qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais juste vous rappeler, il dit, « Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui, ainsi de suite. » Qu'est-ce que Jésus ne voulait pas dire? D'abord, ce n'est pas une charte qui ferait le lit du tyran sans scrupule, qui ferait le lit du mendiant malhonnête ou du bandit. Ce n'est pas un enseignement pour nous pousser à servir de paillasson à qui que ce soit. Les enseignements de Jésus visent à empêcher la vengeance, mais non pas encourager l'injustice. Et je veux décliner ça un tout petit peu, et je prends un peu de temps parce que je sais que les gens ne comprennent pas ce que Jésus est en train de dire, et ils balancent tout parce qu'ils ne voient pas la situation dans laquelle Jésus veut parler. Premièrement, Jésus n'est pas en train d'interdire l'utilisation de la force par la police ou les gouvernements. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. Si la police devait obéir à cela, on n'aurait plus vraiment de force policière dans nos villes. D'ailleurs, la Bible dit, Nouveau Testament, Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Voilà, il ne tourne pas la joue, le magistrat, il utilise l'épée. Et la Bible dit que ça c'est dans la providence de Dieu, Dieu veut qu'il en soit ainsi. L'amour va vous conduire, je pense, à ne pas laisser une personne violente continuer sa violence. Deuxièmement, Jésus n'est pas en train d'interdire la défense de soi dans une situation où quelqu'un met ta vie ou ta santé en danger. Frapper sur une joue, ça ne parle pas d'une bagarre, mais ça parle d'une insulte dans l'Ancien Testament. Ça parle d'une insulte, une diffamation de caractère. Je pourrais vous montrer ça dans la culture de recevoir le gifle sur la joue, c'est d'avoir une insulte massive. On n'est pas dans une situation de danger où quelqu'un est en train de te rouer de coups. D'accord? Troisièmement, Jésus n'est pas en train d'interdire notre recours au tribunal. D'accord? Pour maintenir nos droits dans un cas où notre réputation ou nos biens sont en danger. Ok? Jésus lui-même dit ceci, « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez. » Parce que vous avez le droit de vous défendre. Ok, dans cette situation, « Ni de ce que vous direz, le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Quatrièmement, Jésus n'est pas en train de nous interdire de demander justice de la part des autorités civiles quand nos droits civils sont violés de manière importante. Par exemple, à un moment donné, l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, peut-être vous vous rappelez, il est citoyen romain, mais on les met en prison sans procès et sans même leur demander qui ils sont. Et plus tard, quand ils apprennent que Paul et son compagnon sont citoyens romains, les autorités prennent peur parce qu'ils savent qu'ils ont fait une grande, grande bêtise. Et ils veulent aller les faire sortir furtivement de la prison, secrètement. Et Paul refuse. Il dit, vous nous avez mis en prison illégalement et j'insiste que vous nous amenez, que vous nous relâchez de manière publique pour que ce soit connu ce que vous avez fait. Donc, il demande que la violation de ses droits ne passe pas inaperçu. Donc, ce n'est pas ça que Jésus est en train de faire. Parfois, il y a des cas où nous devons, et Paul devait en ce moment demander que ses droits soient maintenus parce qu'il en allait de l'Évangile. S'il n'a pas le droit, en tant que citoyen romain, d'arriver dans une ville et d'annoncer l'Évangile, donc si les autorités peuvent violer ses droits comme ça, ça a des implications très grandes pour toute sa mission. Cinquièmement, Jésus n'est pas en train de nous interdire de reprocher d'autres personnes quand ils font le mal. D'accord? D'ailleurs, Jésus lui-même dit, prenez garde vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. D'accord? Tant l'autre joue, ça ne veut pas dire que, par exemple, entre frères, on ne peut pas se reprendre. Et dernièrement, Jésus n'est pas en train de dire que nous devons céder à toute manipulation des gens qui veulent nous utiliser pour leurs propres fins. À un moment donné, quelqu'un a essayé de manipuler Jésus. Quelqu'un dit dans la foule à Jésus, Luc chapitre 12, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Est-ce que Jésus se laisse faire? Jésus lui dit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» J'accepte pas cette manipulation que tu veux m'obliger à jouer ce rôle alors que je ne suis pas juge ou magistrat. D'accord? Donc il y a des fois où pour le bien de la personne, nous devons refuser d'aller dans leur sens. Ok, maintenant nous voulons comprendre qu'est-ce que Jésus veut vraiment dire. D'abord, l'idée fondamentale, et puis on va voir que Jésus donne une idée fondamentale qui est « ne résistez pas aux méchants, Et puis il donne quatre exemples différents pour décliner, pour montrer comment ça marche dans notre vie. Donc l'idée fondamentale, nous le trouvons dans ce verset 39, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Tout ce qui suit la joue et donné à celui qui veut, doit être compris dans le contexte de cette phrase, ne résistez pas aux méchants. Il faut savoir que le mot résister en grec est un terme légal qui signifie littéralement amener en justice ou donner témoignage contre. Mais ça peut avoir un sens un peu plus large, ne résistez pas, plus large. Donc, mais Jésus est en train de nous dire, ne revendiquez pas vos droits à chaque moment dans vos rapports personnels. Ne tenez pas sur vos droits. Il m'a fait ceci, il faut qu'il subisse cela. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne faites pas de vos droits la base de vos rapports avec les autres. Il n'aurait pas dû me faire ça. C'était pas ça qui m'était dû. Donc, moi, je coupe la relation avec lui. Ça veut dire que mes droits, c'est la base de mes relations et que ça. Et nous ne pouvons pas faire ça, chers amis, parce que nous sommes dans le royaume maintenant. Le Seigneur nous a attirés à lui et lui-même, il ne fait pas ça avec nous. Il ne dit pas, vous m'avez pas rendu ce que vous deviez à moi, donc c'est fini. N'est-ce pas? Tout le sens de notre conversion, de notre salut, est simplement parce que Dieu n'a pas tenu à avoir ce qu'il devait avoir de notre part. Il a abandonné ses droits, il a abandonné ce que la justice demande pour faire grâce. Et donc, comme je vous ai dit, tout le sermon sur la montagne se résume par cette phrase à la fin du chapitre 5, où Jésus dit, Soyez parfaits comme ton Père au ciel est parfait. Le Seigneur, en enseignant toutes ces choses, veut nous amener à être comme notre Dieu, glorieusement gracieux et plein de miséricorde envers ceux qui lui font du tort. Ok. Donc, dans nos relations personnelles, ça veut dire que nous devons inverser le principe de représailles. Nous devons inverser le principe de représailles. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que la règle de la loi du talion, c'est que si Jacques fait tort à Pierre, donc l'endommagement doit s'inverser et Pierre doit finir comme celui qui subit le même tort. D'accord? Mais Jésus dit que nous, dans notre comportement, on va faire exactement le contraire. Si quelqu'un te frappe sur une joue, la loi du talion dirait, lui, il doit être frappé sur sa joue. Mais au lieu que le tort se retourne contre lui, nous, on va prendre le tort deux fois. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre joue. Le tort qui aurait dû revenir vers le malfaiteur, délibérément, tu le prends encore, donc tu prends une deuxième fois. L'endommagement va deux fois dans la même direction, une fois, deux fois. Donc, quelle différence énorme, quel bouleversement. Au lieu de il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres te retomberont sur ta tête. Ça devient, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ah, c'est cela. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de tendre l'autre joue? Parce que nous sommes en train d'aimer le prochain comme nous-mêmes et comme nous avons besoin que Dieu ne nous fasse pas représailles, nous avons besoin de pitié, de grâce, nous voulons faire ça aux autres. Donc, le but, c'est que je subis le mal encore pour essayer de gagner le méchant au lieu de le résister. Je cite Romains chapitre 12. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Cette phrase idiomatique dans la culture juive voulait dire que tu vas l'amener à avoir un grand remords. D'accord? Tu vois les charbons sur la tête, tu sens, ça devient chaud. Parce que comme je t'ai fait mal et tu m'as répondu par le bien, oh là là, je me sens très mal, je vois mon mal encore plus grand. Et je vois que je dois me repentir. Ok? Donc c'est pour ce but que nous sommes en train d'accepter le deuxième gifle. Maintenant les quatre illustrations et ça va devenir concret parce qu'il faut maintenant se dire comment est-ce que ça marche quand quelqu'un me fait mal, me fait tort. Première illustration, c'est quand on nous insulte. Deuxième, quand on nous poursuit en justice. Troisième, quand on nous impose un service. Et quatrième, quand on nous quémande de l'argent. Ok, vous voyez combien le Seigneur prend des situations très différentes qui couvrent un peu toutes les bases. Ok, on commence avec quand on vous insulte. Alors Jésus dit, si quelqu'un te frappe sous la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un cas de violence grave, c'est plutôt le cas de l'insulte. Vous avez vu dans les films quelqu'un qui prend un gant et il fait comme ça contre la joue de l'autre. Et ça, c'est vraiment l'insulte la plus grave. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu comme ça. Si quelqu'un te frappe sur la joue. Donc, Jésus nous enseigne que négativement, on ne rend pas coup pour coup. On ne le frappe pas sur sa joue. Mais positivement, on lui tend l'autre joue. C'est-à-dire que si c'est une personne qui est en train de nous faire mal, on ne fuit pas la situation où ce mal peut nous atteindre encore. On veut se garder assez proche à la personne, en relation avec lui, et pas nous séparant de lui, pour que ça puisse nous arriver encore. Parce que nous refusons de tourner le dos à cette personne. Je vous raconte une petite histoire. Hudson Taylor était un missionnaire renommé en Chine dans le 19e siècle. C'est lui qui a plus ou moins ouvert tout l'intérieur de la Chine au christianisme. Un grand bonhomme. Il y a beaucoup de biographies écrites à son sujet. C'était un Anglais qui s'est habillé comme les Chinois, qui a poussé la queue de cheval comme les Chinois, qui est devenu vraiment Chinois pour atteindre les Chinois. Et donc, à un moment donné, il attendait un bateau qui devait, une sorte de ferry qui devait traverser un grand fleuve. Et donc, il avait appelé ces petits bateaux, étaient un peu des taxis qui amenaient les gens à l'autre rive. Et pendant qu'il attendait, habillé comme un Chinois, un autre Chinois est venu derrière lui. Et voyant qu'il avait déjà appelé le bateau pour lui-même, ce Chinois a voulu prendre le bateau. Et donc, il a poussé Hudson Taylor fortement et il a fait tomber dans la boue. Cet homme ne savait pas que c'était un Anglais, c'était un étranger. Il le pensait être Chinois. Mais quand le bateau est arrivé, le capitaine, enfin le monsieur dans le bateau, a dit « Non, je ne te prends pas, l'étranger m'a appelé le premier. » Oh là 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 là, il avait honte, parce que dans la culture chinoise, on ne traite pas l'étranger comme ça. Hudson Taylor, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a invité le bonhomme à aller dans le bateau avec lui gratuitement. Et dans le bateau, a commencé une conversation très fructueuse sur l'évangile. Voilà. Il a été giflé sur une joue et il a tendu l'autre joue. Deuxièmement, quand on vous poursuit en justice, Jésus dit au verset 40, si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Alors, ça c'est une allusion à cette prescription dans l'Ancien Testament, le livre d'Exode. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. Car le vêtement dont il s'enveloppe le corps, donc sans ce vêtement, dans quoi couchera-t-il? Donc, dans ce cas, quelqu'un veut t'amener en justice, et Jésus dit, si le tribunal juge en faveur de ton adversaire, même injustement, tu dois être prêt à aller, à accepter la sentence contre toi, de la part du tribunal, que ton vêtement est pris, et même être prêt à aller encore plus loin, à ne pas dire, mais ça c'est tout ce que tu auras de moi, mais être là pour faire encore du bien à cette personne qui a été méchant envers toi. Donc, en tant que disciple, je n'ai pas de temps à perdre en me souciant de mes droits. Je dois sauver mon prochain. C'est un peu ça le sens. Et si, parce qu'il a été injuste avec moi, je lui tourne le dos, et ça c'est tout ce que tu auras de moi, tu n'aurais même pas dû avoir ça, alors là, je ne lui ai pas montré qui est Dieu. Parce que Dieu est le Dieu qui, lorsqu'on lui a pris ce qui est à lui, nous avons pris nos vies, nous sommes allés loin de lui, il n'a pas dit, c'est fini. Il nous a cherchés, il nous a bénis, il nous a donné plus. Et c'est vraiment cette grâce incroyable que le Seigneur veut nous inculquer. C'est bouleversant. C'est vraiment énorme, énorme. Et aucun humain n'aura jamais pensé à une telle norme d'éthique. Ce qui montre le caractère divin de ce que Jésus dit. Quand on vous impose un service, c'est le troisième. Dans le verset 41, Jésus dit, si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Alors, dans le temps, un soldat romain avait le droit, dans l'Empire romain, d'obliger un civil, de manière impromptue, à porter ses bagages pendant 1 000 pas. Et ils en profitaient bien. Vous pouvez imaginer ce que ça représentait pour les gens. Voilà. Mais Jésus dit, si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. C'est énorme ça. C'est formidable. Ça veut dire que ma bonté envers toi ne s'arrête pas dès que tu es méchant avec moi. Ma bonté avec toi ne dépend pas de ta bonté envers moi. Tu as ce bagage, tu vas loin, je vais faire 2 000 avec toi. Allez, on va continuer. C'est incroyable, simplement, que nous puissions avoir un appel à vivre comme cela. La dernière illustration, c'est quand on vous quémande de l'argent, et je m'arrête après cela. Jésus dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors, nous savons que cela ne veut pas dire que à toute personne dans la rue qui mendie, nous sommes obligés de donner. Nous le savons parce que dans d'autres passages bibliques, nous apprenons que parfois nous pouvons faire un plus grand mal à quelqu'un en lui donnant quelque chose de physique. Nous pouvons lui faire un mal spirituellement et moralement parce qu'il est en train de vivre dans le mensonge, de refuser de travailler. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous voyez que il ne dit pas s'il ne peut pas, mais s'il ne veut pas, s'il refuse de travailler. Et en Afrique, j'avais constamment des gens à ma porte qui demandaient de l'argent. Il y avait beaucoup plus de pauvreté et ça se comprenait. Et souvent, ces demandes étaient légitimes est simplement réel. Et il fallait aider ces gens. Et je voyais des situations, une personne qui n'avait pas plus qu'une chemise et qui avait vraiment besoin d'aide. Mais parfois, parce que je ne connaissais pas les gens, pour tester un peu, je disais, tu veux de l'argent pour quoi? Pour manger. Allez, je vais aller t'acheter quelque chose à manger. Non, 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 je ne veux pas ça. Et donc, je voyais qu'il y avait un problème. Un problème dans la demande de la personne. Et lui donner, tout simplement, ce ne serait pas l'aider vraiment. Et nous parlons d'une loi d'amour ici. Et probablement, quand Jésus dit cette phrase, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi, dans le contexte où c'est œil pour œil et dent pour dent, mais moi je veux dire de ne pas résister aux méchants, il est en train de parler de quelqu'un qui vous a fait un tort. Ok? Je suis sûr que l'application est plus grande, mais lorsque Paul l'applique dans les Romains, il parle de l'ennemi, de l'adversaire. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Vous voyez? Et dans ce contexte, le don est immérité, non pas parce que la personne n'est pas nécessiteuse, mais c'est parce que la personne vous a fait du tort. Ok? Et vous n'avez pas peut-être envie de lui donner. Une autre histoire de la Chine qui vient de la vie de Watchman Nee, un pasteur chinois bien connu dans le 20e siècle. Watchman Nee raconte cette histoire dont il était témoin. Un chrétien dans l'église, dans un certain village, avait un champ qui était juste au-dessus du ruisseau d'irrigation qui passait dans le coin. Et donc lui, il était obligé d'utiliser une pompe mécanique qui marchait et il devait utiliser ses jambes pour pomper l'eau jusqu'à son réservoir afin d'irriguer son champ. Et c'était un travail qui prenait beaucoup de temps, qui était très dur. Son voisin avait un champ juste en dessous de lui. Et son voisin, qui n'était pas chrétien, par nuit, volait l'eau dans son réservoir et irriguait son champ. Ça se passait à répétition et le chrétien était bien tenté d'amener en procès ou de rendre le mal pour le mal. Mais en lisant ces passages, il a su qu'il ne devait pas faire. Et voilà, il a décidé qu'il allait travailler encore plus pour amener plus d'eau dans son réservoir et en amener assez pour irriguer les deux champs. Et il les irriguait lui-même. Et bien sûr, son voisin a pris connaissance qu'il irriguait son champ. Et après plusieurs mois, il y avait en fait deux chrétiens agriculteurs dans ce village. Parce que cet homme a été amené au Seigneur par cette grâce qui ressemble à la grâce de Dieu envers nous, mais qui passe par cet homme envers celui qui a fait de mal. C'est une vie merveilleuse, mais très exigeante, n'est-ce pas? Parce que l'amour fait souffrir, l'amour véritable. Quand on aime, et si on aime fortement, on doit souffrir pour l'autre. Mais ça vaut la peine de marcher avec notre Dieu de cette manière et de glorifier son nom.